Chapitre 23. La dépêche que Faré avait déposée à Paris le soir n'arriva à Cordes que le lendemain matin et ne fut remise à Geneviève qu'à 9 heures. En s'éveillant, Mademoiselle de Puylaurens, qui avait passé une nuit moins mauvaise que la veille, avait demandé si cette dépêche était arrivée, et sur la réponse négative de Geneviève, elle avait manifesté une certaine impatience. « Je voudrais tant avoir une certitude tout de suite !» Par ce mot, on pouvait juger quelles étaient ses craintes. Enfin, Buvin monta la dépêche à Geneviève, qui ne quittait pas la chambre de sa tante. « Lis vite !» Elles restèrent l'une et l'autre sans parole, ne se regardant pas, Geneviève tournée vers la fenêtre pour cacher ses larmes. Un temps assez long s'écoula ainsi. Ce fut Mademoiselle de Puylaurens qui se remit la première. « Il ne faut pas désespérer, dit-elle. Si j'avais été sage, j'aurais prévu ce qui arrive. »« Vous comptez sur maman ?»« Non, mon enfant, car ta mère, je le crains bien, ne pourra pas grand-chose. Je compte sur moi. » « Comment ? Il faut que je consulte mes amis, car malheureusement, je n'ai pas la tête à moi. Toute la nuit, j'ai eu la sensation que j'étais tombée à l'eau dans la Gironde, à Pauillac, et que je m'étais cramponnée à une bouée, que le flux et le reflux faisaient tournoyer. Ma tête tourne donc encore. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vaguement conscience qu'il y a quelque chose à faire. Seulement, il faut que je m'entoure de conseils. » Tu vas écrire un mot au doyen, au docteur et au notaire Lacaze pour les prier de venir tout de suite et tu enverras Buvin les chercher. Oui, ma tante. Et pendant que Geneviève écrivait, Mademoiselle de Puylaurens ajouta « Tu recommanderas qu'on dise à tout le monde que je vais mieux, beaucoup mieux. Dis-le toi-même. » « Mais c'est vrai, ma tante. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce si vrai que cela ?» Ce fut le docteur Azéma, rencontré par Buvin dans les environs du château, qui arriva le premier. Lorsqu'il entra dans la chambre, Geneviève sortit. « Vous sentez-vous donc plus mal ? » demanda-t-il vivement en venant au lit. « Mieux, beaucoup mieux, guéri. » Un accès de toux, suivi d'un étouffement, lui coupa la parole. Quand elle eut repris sa respiration et un peu de calme, elle continua. « Il faut qu'on me croie en voie de guérison et je compte sur vous pour cela. »« Que voulez-vous dire ?» Elle lui tendit la dépêche. « Il perd donc la tête, monsieur de Mussidan, » dit le docteur après l'avoir lu. « Au contraire, il calcule et très bien. Il y a quelqu'un ici qui certainement le tient au courant de ma santé. » Le docteur le connaissait, ce quelqu'un, mais il se garda de le nommer. « Ce quelqu'un, poursuivit Mademoiselle de Puylaurens, lui a écrit que j'étais malade, mourante peut-être, et monsieur de Mussidan, se voyant à la veille de mettre la main sur ma fortune, refuse de consentir à un mariage qui ruinerait ses espérances coupables. Qu'il apprenne maintenant que je vais mieux et que, par conséquent, la réalisation de ses espérances se trouve indéfiniment retardée, et peut-être consentira-t-il à nous donner, ou plutôt à nous vendre son consentement. » « Sans aucun doute. Qui m'aurait dit que je me donnerais tant de peine pour faire réussir ce mariage dont je ne voulais pas moi-même il y a quelques jours? Mais pour qu'il réussisse, il me faut du temps, et voilà pourquoi je vous ai fait appeler. Combien de jours me donnez-vous ? » « Comment combien de jours ? C'est combien d'années, vous voulez dire ? » « Je vous en prie. Mon ami, répondez-moi franchement. » Je ne suis pas une femme sans courage, et si je tremble en ce moment, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'avenir de cet enfant. Le médecin ne doit-il donc pas dire la vérité à un malade qui regarde la mort en face? Je vous jure que s'il ne survient pas de complications, qui d'ailleurs ne paraissent pas probables, j'espère vous sauver. Seulement, ce que je vous demande, ce que j'exige, c'est que vous ne vous fatiguiez pas. Cela pourrait être grave. Encore quelques mots au doyen et à M. Lacaze, et je vous obéis. Vous comprenez qu'avant de nous lancer dans ces ruses et ces mensonges, j'ai besoin de consulter mon directeur. Est-ce là des mensonges? Il le dira. S'il les permet, j'ai aussi des instructions à donner au notaire. Enfin, parlez le moins possible. Je reviendrai bientôt voir comment vous avez supporté ces fatigues. Comme le docteur Azéma remontait à corde, il croisa Seydoux qui descendait. C'était son habitude de le saluer sèchement et de le tenir à distance. Mais ce jour-là, il l'aborda. Il ne lui parla pas le premier de Mademoiselle de Puylaurens, certain qu'il n'avait qu'à attendre. « Est-ce que vous avez beaucoup de malades dans ce quartier ?» demanda Seydoux. « J'en ai eu, je n'en ai plus, » dit-il d'un air affligé. « Est-ce que Mademoiselle de Puylaurens est morte ?» s'écria Seydoux, tombant dans le piège qui lui était tendu. « Morte, Mademoiselle de Puylaurens ? Qui diable a pu vous donner cette idée ? N'est-elle pas malade ? Elle l'a été, elle est guérie. Je croyais qu'elle avait une fluxion de poitrine. Elle avait cru qu'elle était menacée d'une fluxion de poitrine, mais ce n'était qu'un simple rhume, comme elle en a souvent. Les vieilles filles ne meurent pas ainsi. On ne peut pas les tuer, même quand on est leur médecin. » Et il s'éloigna en riant, se disant que ses paroles ne seraient pas perdues, et, paroles de médecin, elles avaient de l'importance. Avant le soir, elle courait vers Paris. La conférence qui eut lieu entre Mademoiselle de Puylaurens et son directeur ne fut pas longue, et lorsque le notaire Lacaze arriva à son tour, il fut reçu aussitôt. Il s'attendait à trouver sa cliente mourante. Au contraire, il la trouva souriante. « Croyez-vous donc que je vous appelais pour faire mon testament ?» dit Mademoiselle de Puylaurens en voyant son air étonné. « C'est d'un mariage qu'il s'agit. Monsieur le doyen va vous expliquer ce que j'attends de votre ministère. » Et le curé donna ses explications. « Une lettre à écrire, dit-il, à votre collègue, maître Lejeunet de la Crochardière, notaire à Paris. Mademoiselle de Puylaurens désire marier sa petite nièce, Mademoiselle Geneviève de Mussidan, avec un jeune homme de grand avenir dont vous avez lu le nom certainement en ces derniers temps, M. Ernest Farré. L'auteur de ces deux pièces qui viennent d'obtenir un si beau succès? Précisément. Pour cela, il nous faut le consentement de M. le comte de Mussidan, consentement que Mademoiselle de Puylaurens, par suite de sa rupture avec son neveu M. de Mussidan, ne peut pas demander elle-même, mais qu'elle prie M. Genet de la Crochardière d'obtenir. Pour cela, il devra représenter à M. de Mussidan qu'en vue de ce mariage et par contrat, c'est-à-dire d'une façon irrévocable, Mademoiselle de Puylaurens fait donation à sa nièce de toute sa fortune, mais à la charge par Mademoiselle de Mussidan, devenue Madame Farré, de servir à son père une rente viagère de 12 000 francs et à ses deux frères une rente viagère de 6 000 francs à chacun d'eux. De plus, Maître Lejeunet de la Crochardière versera à M. le comte de Mussidan, le jour même où celui-ci signera le consentement du mariage, une somme de 20 000 francs. Telles sont bien vos intentions, n'est-ce pas, mademoiselle ? Parfaitement, répondit Mademoiselle de Puylaurens. Cependant, je vous prie d'ajouter encore quelle considération morale le notaire de Paris devra faire valoir auprès de M. de Mussidan pour trancher les hésitations de celui-ci, s'il en éprouve. J'y arrive. Avant tout, je vous prie de me laisser noter les points principaux de la proposition, dit le notaire. Et prenant son portefeuille, il écrivit 12 000 francs de rente viagère au père, 6 000 francs de rente viagère à chacun des frères. Puis, s'adressant au doyen, « Je vous écoute, monsieur le doyen. » Celui-ci continua. « Le point sur lequel maître Lejeunet de la Crochardière devra insister, car il est décisif, est celui-ci. Jamais mademoiselle de Puylaurens ne consentira à ce que monsieur de Mussidan mette la main sur sa fortune, de sorte que, si ce mariage ne se réalisait pas comme elle le désire, elle déshériterait sa nièce de peur d'être surprise par la mort, et elle ne l'instituerait sa légataire universelle que le jour où Mademoiselle de Mussidan serait d'âge à échapper à l'autorité paternelle. Vous rendrez cela clair, n'est-ce pas ? Parfaitement. Monsieur de Mussidan consent au mariage. Dans ce cas, Mademoiselle de Puylaurens institue sa nièce légataire universelle. Au contraire, Monsieur de Mussidan refuse. Dans ce cas, Mademoiselle de Puylaurens, par précaution et par un testament en quelque sorte provisoire, « institue un autre légataire. »« Très bien, dit le doyen. »« Vous pouvez supprimer en quelque sorte, dit mademoiselle de Puylaurens. C'est tout à fait provisoire qu'il faut dire maintenant, car j'espère bien en avoir rappelé et pour longtemps. Elle se souleva à demi, avec effort, mais en souriant cependant, de façon à bien montrer qu'elle en avait rappelé, comme elle le disait, et que maintenant elle était guérie. Et le doyen, qui savait ce que ce sourire courageux cachait de souffrances et d'angoisses, se moucha avec affectation pour que le notaire ne surprît pas son attendrissement. « Je vais vous signer un chèque de 20 000 francs, » dit-elle. « Ne vous pressez pas, mademoiselle, » répondit le notaire. « Je vais, si vous le permettez, écrire ma lettre à maître Lejeunet de la Crochardière ici même, afin de vous la soumettre. « Monsieur le curé va vous conduire dans mon cabinet. Je vous serai reconnaissante de dire à maître Lejeunet de la Crochardière que je le prie, au lieu d'appeler monsieur de Mussidan à son étude, d'aller le trouver et de ne rien négliger pour obtenir ce consentement. » Et, tandis que le doyen sortait avec le notaire, elle s'abandonna, épuisée par les efforts qu'elle venait de faire. Vivrait-elle assez ?